l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Thierry Lersch pour le réseau Éducation sans frontières de Montpellier, de notre département. Alors, Thierry, rappelez à nos auditeurs ce que fait Réseau Éducation sans frontières.
Alors, bonjour. Réseau Éducation sans frontières existe depuis 2004. Il a été créé par des enseignants et des parents d'élèves qui voyait un jour disparaître un élève de classe et ne comprenait pas pourquoi. Et ils sont vite aperçus qu'en fait, c'était parce que tout d'un coup, les parents étaient expulsés ou le jeune devenant tout d'un coup majeur, c'était des étrangers, bien sûr, disparaissaient de la classe aussi. Et donc, ils ont été révoltés parce que toutes ces personnes étaient parfaitement insérées en France. Et les enfants étaient à l'école, les jeunes faisaient leurs études et ils trouvaient tout à fait anormal qu'ils soient expulsés. Et donc, c'est comme ça que s'est créé Réseau Éducation sans frontières. C'est un réseau hein, qui rejoint à la fois des personnes, des associations diverses, la FCPE, beaucoup de syndicats, et qui fonctionne depuis 2004. Sur Montpellier, il a été créé à peu près en 2006. Et notre activité ici est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'accueil, tout simplement, des familles qui ont des enfants scolarisés sur Montpellier, des familles étrangères, et des jeunes, jeunes majeurs ou mineurs, qui sont scolarisés aussi et qui viennent nous voir pour des problèmes de papier, pour qu'on les conseille, pour qu'on les guide, pour qu'on aussi on les aide dans toutes leurs démarches administratives pour pouvoir régulariser leur situation.
Vous intervenez aussi pour faire inscrire des enfants à l'école.
Alors, pour l'instant, et jusqu'à présent, il n'y avait pas eu beaucoup de problèmes pour faire inscrire des enfants à l'école. En général, s'ils sont tout petits, ils passaient par la mairie. Et en général, il n'y avait pas de problème. Il y a plus de problèmes pour les jeunes adolescents entre 16 et 18 ans. Et jusqu'à présent, il y avait à peu près un accord pour qu'on puisse leur faire passer des tests dans un espace qu'on appelle l'espace Sangor, qui font les tests d'engage, savoir quel est le niveau scolaire. Et on pouvait les parrainer un peu, ces jeunes. Et là, apparemment, il y a un problème. Et donc, il faut qu'on se réunisse avec le rectorat pour essayer de régler ce problème, de façon à ce que ces jeunes puissent continuer à être scolarisés. Mais le gros problème qu'on a, nous, sur Montpellier, c'est surtout vis-à-vis de la prise en charge des jeunes mineurs hein, entre 16 et 18 ans. C'est là où il y a un gros, gros problème, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, il y en a beaucoup plus qui sont arrivés.
Hein. Combien à peu près ?
Et ben, dans les années, il y a 2 ou 3 ans, ils étaient à peu près 40 par an qui arrivaient. Actuellement, on en est à 200, donc on voit que c'est un accroissement qui est considérable. Alors, dans le département, on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'il accueille quand même beaucoup de ces jeunes, hein, puisque au dernier chiffre qu'on a pu avoir, ils accueillaient 360 mineurs venus de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et en plus 120 qui étaient des jeunes majeurs hein, qui bénéficiaient de contrats jeunes majeurs pour continuer leurs études. Mais là où il y en a eu un gros problème, c'est où il y a une période entre le moment où ils arrivent et au moment où ils sont vraiment pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire scolarisés, on commence à s'occuper d'eux. C'est toute cette période-là qui nous inquiète beaucoup pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on a l'impression qu'il y a une suspicion systématique de leur minorité, c'est-à-dire qu'on les fait évaluer par une association, mais on a tendance à vouloir systématiquement croire que ce sont des faux mineurs. Et on conteste plusieurs choses. On conteste d'abord leur papier, hein. Et ça, pour plusieurs cas, on a vu la police dire que ces papiers sont faux, alors que nous, on a pu prouver quelques temps après que ces papiers étaient vrais, qu'ils étaient bien nés, qu'ils étaient bien mineurs. Hein. La première chose, c'est cette contestation systématique des papiers. La deuxième chose, c'est que quand il y a un doute, Et bien finalement, le procureur fait passer des tests osseux. Et ces tests osseux, tout le monde sait, hein, la Cour nationale consultative des droits de l'homme a demandé l'interdiction. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, aussi a demandé l'interdiction de ces tests parce qu'ils ne sont pas fiables du tout. Hein. Ils ont une validité de plus ou moins 2 ans. Et encore, les médecins légistes le reconnaissent eux-mêmes. Plus l'enfant grandit, c'est-à-dire qu'on arrive vers 16, 17 ou près de 18 ans, c'est totalement, on ne peut absolument difficile. Pas vérifier de donner un âge. Mais par contre, ça devait être exceptionnel. Hein, Madame Taubira s'était engagée à que ce soit exceptionnel, ces tests osseux. Sur Montpellier, on sait qu'un tiers des migrants, des jeunes migrants, ont passé des tests osseux. Et en se basant sur les tests osseux qui sont complètement bidons, parce que c'était fait pour une population blanche des États-Unis dans les années 50, là on les passe sur des jeunes Africains qui ont vécu une terrible traversée du désert, hein, des traumatismes importants qui n'ont rien à voir au point de vue osseux avec cette autre population blanche, on leur fait passer des tests osseux. Ces tests osseux les rendent majeurs, pour beaucoup. Hein. Donc, du coup, ils vont être poursuivis par le procureur. Hein. Le procureur va les poursuivre pour faux papiers. Il va les poursuivre pour escroquerie, hein, parce qu'ils ont bénéficié de l'accueil. Et ils vont aussi être avec les tests osseux, ils vont dire, voyez, vous êtes majeur, hein, donc vous avez menti. Et non seulement ils vont être poursuivis, mais le pire là-dedans, c'est qu'ils vont être condamnés à des mois de prison. Et c'est ça, c'est totalement scandaleux. On ne peut pas admettre qu'un jeune qui a simplement été mis à l'abri. Hein. Admettons que quelqu'un est hébergé par le 115. Il est hébergé par le 115, on ne lui demande rien, il est hébergé par le 115. C'est la même chose pour ces jeunes. Ils sont hébergés. Hein. On l'a simplement mis à l'hôtel pendant quelques mois. Et pour ça, on les envoie en prison. Mais c'est absolument un scandale monumental. Hein. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on veut dénoncer. Il y a deux choses. C'est premièrement, l'envoi en prison, ça c'est totalement inadmissible. La deuxième chose, c'est que entre le moment où il arrive ici et le moment où il va pouvoir enfin être scolarisé, il se passe quelquefois un an où ces jeunes sont tout seuls dans des hôtels, abandonnés à eux-mêmes. Alors qu'on voit, quand on connaît les parcours, quand ils nous racontent les parcours qu'ils ont subis pour venir ici, les traumatismes qu'ils ont faits, les laisser tout seuls dans un hôtel, déjà, c'est absolument incroyable. Et bien, pas pendant un mois ou deux, c'est pendant 12, 14 mois, on en a vu, on ne leur propose rien, ils sont tout seuls. Alors, jusqu'à présent, c'était très bien, parce que, enfin, c'était pas bien, ça fait longtemps qu'on rencontre le département pour demander que ça, ce soit fini. Hein. Jusqu'à présent, il y avait quand même une association qui existait, l'association RAI, qui était là, pour les, au moins qui le recevaient le matin, qui les accueillaient avec bienveillance, qui leur faisaient un petit déjeuner, hein, qui les évaluaient aussi, qui leur permettaient de résoudre leurs problèmes de papier. Hein, c'est parce que c'est pas évident de résoudre les problèmes de papier et d'obtenir des papiers.
Surtout le problème de la langue, quand bien ils sûr, arrivent.
Et qui avaient des traducteurs. Et cette association, elle vient de mettre les clés sous la porte parce que le Conseil général a fermé le robinet. Et donc, du coup, ces jeunes ne sont plus accueillis du tout. Ils n'ont plus rien. Le matin, ils tournent en rond dans leur chambre d'hôtel, alors que là, ils pouvaient venir se retrouver entre eux, prendre leur petit déjeuner. Ils n'ont plus personne pour les rassurer, hein, parce qu'ils sont justement simplement pour discuter, échanger avec bienveillance. Et ça, vraiment, pour nous, c'est totalement inadmissible. Et j'espère qu'on va bientôt rencontrer le Conseil général, j'espère qu'ils vont revenir sur leur position, qu'ils pourront offrir de nouveau un accueil à ces jeunes et que ces jeunes ne tournent pas en rond et surtout que ce délai, qu'ils puissent être scolarisés très rapidement, hein, parce que c'est ça qui compte. Ces jeunes, s'ils viennent ici, ils viennent avant tout pourquoi ? Pour apprendre à lire, hein, à écrire, être scolarisés, travailler, hein, et peut-être après aider leur famille. La plupart, c'est bien sûr des questions économiques, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi parce qu'ils ont perdu leur père, pour beaucoup d'entre eux, qui a eu des problèmes de famille, hein, et quelquefois aussi, bien sûr, des problèmes de mise en danger des vies de ces jeunes. Mais, de toute façon, toutes les raisons, chacun a sa propre raison, mais elles sont toutes valables, elles sont toutes bonnes. En tout cas, aucune ne peut justifier qu'on envoie des jeunes en prison parce que, soi-disant, ils auraient eu des faux papiers, hein, et qu'ils auraient abusé de l'accueil du Conseil général. Au moins, on a obtenu une chose depuis très, très récemment, c'est que le Conseil général ne se porte plus partie civile. C'est-à-dire qu'il ne réclame plus d'argent à ces jeunes.
Ah oui, ça, parce déjà, qu'avant...
Avant, il réclamait, parce que, et donc, beaucoup de ces jeunes, d'ailleurs, nous les hébergeons, ou ils sont dans des squats. Bon, on en héberge une partie, mais on ne peut pas héberger tout le monde. Un dernier exemple que je donnais l'autre jour, c'est un jeune de Côte d'Ivoire. On lui réclamait 99 938 euros. Bon, maintenant, c'est fini, ça. Heureusement, maintenant... Maintenant, on va demander au Conseil général de les accueillir avec bienveillance et que RAI puisse de nouveau refonctionner. Je crois que c'est ça qui, pour nous, qui est important. Et ce délai, il faut le raccourcir. Il faut que maintenant qu'ils soient scolarisés dans les 2 mois maximum, hein, qu'ils puissent bénéficier tout de suite, dès leur arrivée, dans les 2 mois, d'un accès à l'école. Parce que c'est ça qu'ils demandent et c'est ça qui doit
faire. Est important pour eux,
bien
pour
sûr.
Leur avenir.
Il faut absolument que... Ce sont des mineurs, hein, avant tout, avant d'être des étrangers. Ce sont
Il faut
des
rappeler
mineurs.
Que c'est la Convention des droits de l'enfant qui nécessite, pour tous les États, de prendre en charge ces mineurs.
Voilà. Alors, évidemment, tout le monde se réfugie sur « Ah, c'est un coup ». Mais écoutez... Ce coût, c'est peut-être quelques millions, hein, mais par rapport à d'autres dépenses qui sont faites, hein, par rapport aux exonérations fiscales qui sont faites, c'est rien du tout. C'est un tout petit pourcentage de tout ça. Et qu'est-ce qu'on doit privilégier ? L'humanitaire ou finalement uniquement la finance ? Je crois qu'effectivement, on ne peut pas dire que ça coûte cher. Hein. L'accueil est un devoir humanitaire. Hein, et on doit mettre les moyens pour accueillir tous ces jeunes et ces familles. Hein, parce que beaucoup de ces familles, non seulement elles ont des problèmes de papier, mais bien sûr, c'est des problèmes de logement qui sont vrais pas uniquement pour les étrangers, hein, qui sont vrais pour tout le monde. Et ça aussi, c'est des facteurs sur lesquels on est nous aussi confrontés, même si c'est pas là-dessus qu'on est capable de répondre. Mais on essaye de les orienter. On essaye de travailler en réseau avec d'autres associations, le Secours populaire, le Secours catholique... la LDH, on a plein d'associations. On travaille aussi avec les avocats, hein, qui nous conseillent, à qui on peut envoyer avec confiance ces jeunes et ces familles. C'est un réseau. On travaille en réseau parce que c'est notre volonté de travailler comme ça et d'être ouvert à tout le monde.
Alors, vous avez apporté de la musique pour nos auditeurs. De quoi s'agit-il ?
Alors bon, j'ai pris un auteur de ma génération, Moustaki, mais... La première chanson, c'est Sola Nommé, parce que voilà, ça parle un peu du fait que moi, je suis révolté, et je le suis toujours, hein, depuis très longtemps. Et je pense que pour que ça change, il faut que ça change en permanence. Hein. Il faut que les choses bougent et que ce qui doit changer, c'est pas uniquement le problème des migrants, c'est toute la société, parce que je crois que tout est lié. Et bon, cette chanson me parle beaucoup dans ce sens-là.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre.
Alors, si j'ai invité Thierry Lhersch aujourd'hui, c'est parce qu'il a participé aux États généraux des migrations qui se sont passés fin mai à Montreuil et qui, pendant une période de 8 mois, ont réuni 450 associations et collectifs citoyens de solidarité avec les personnes étrangères et ont établi des cahiers de doléances. Et alors, cette assemblée plénière, comment s'est-elle passée?
Alors, avant de parler des états généraux des migrations, un sujet d'actualité, c'est qu'actuellement, à 7, il y a un rassemblement devant le centre de rétention parce qu'il y a un jeune ivoirien, Moussa Kanté, qui était venu un jour pour ses papiers à la préfecture. Parce que ce jeune, c'est un demandeur d'asile qui a eu toutes les souffrances terribles en Côte d'Ivoire. Enfin, tout le monde a entendu parler des affrontements qu'il y a eu entre les chrétiens et musulmans dans ce pays-là, il y a quelques années. Et il a fait partie de ces victimes qui ont failli laisser leur peau là-bas. Et ensuite, il a traversé très longtemps. Il a mis 3 ans de terribles galères pour arriver en France. Et quand il est arrivé en France... Ce jeune, il avait laissé ses empreintes en Italie et la préfecture a dit, vous avez laissé vos empreintes en Italie, vous devez rentrer en Italie. Et donc un jour, un matin, il vient à la préfecture à 9h pour justement ses problèmes de papier et on lui dit, mais revenez à 14h, on aura un complément d'information à vous donner. Et arrivé à 14h, il arrive et il est ramassé par la police et est envoyé au centre de rétention de 7. Alors voilà. C'est ce qu'on appelle des gens qu'on veut dubliner, c'est-à-dire ces accords Dublin, qui fait qu'un migrant doit faire sa demande d'asile dans le pays où il a laissé ses empreintes la première fois. Donc là, c'était l'Italie. Hein. Alors, quand on sait que d'une part, par l'Italie, c'est là qu'arrivent tous les migrants, on en parlera d'ailleurs dans les états généraux plus tard. Deuxièmement, que ce pays est actuellement en tournant complètement avec une partie d'extrême droite et le traitement qu'il va réserver à ces migrants va être totalement détestable, que l'Italie n'instruit plus de demande d'asile. Vouloir renvoyer ce jeune qui est francophone en Italie pour qu'il puisse faire sa demande d'asile, mais c'est une vaste hypocrisie. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est vraiment... incroyable qu'on piège une personne comme ça en lui disant revenez, tout ça pour l'envoyer. C'est totalement inadmissible. Et actuellement, il y a un rassemblement devant un centre de rétention de 7. Et je crois qu'il faut être solidaire de ça. Il y a une pétition aussi qui est en ligne là-dessus. Il faut vraiment, c'est absolument inadmissible qu'une préfecture puisse avoir de telles attitudes vis-à-vis de migrants francophones, Côte d'Ivoire, ancienne colonie, qu'on subit vraiment des atrocités, et c'est en France qu'ils parlent, donc c'est normal que ce soit en France qu'ils défendent leur droit d'asile, c'est leur langue, c'est la manière dont ils peuvent s'exprimer. Donc voilà, ça je voulais mettre ça au point parce que c'est totalement inadmissible. Maintenant, pour revenir aux états généraux des migrations. Alors, comme vous l'avez dit, oui, c'est très important. Ça s'est créé comment? C'est parce que le gouvernement actuel, il se disait très ouvert, et les associations... on commençait à dire, on va aller discuter avec ce gouvernement. Puis, il ne se passait rien, il n'y avait rien de nouveau. Alors, tout ce qui était dit par ces associations, rien n'était pris en charge, en compte. Et donc, ces associations ont dit, nous, on en a marre de ce qu'on dit, on le cause toujours, tu m'intéresses. Et donc, elles ont décidé, 106 associations, effectivement, 470 associations, c'est 106 collectifs, mais 470 associations au niveau national, on dit, il y en a marre, on va se rassembler ensemble, on va faire un bilan de ce qui existe et un cahier un peu de tout ce qu'on veut pour que ça change.
Oui, ça a commencé en novembre 2017.
Voilà, exactement. Et entre-temps, donc, il y a eu plein d'assemblées qui se sont faites dans plein de villes de France. Il y en a 106.
Ici à Montpellier.
Et ici à Montpellier, bien sûr, mais il n'y a pas qu'à Montpellier, il y a à 7, il y a aussi à Béziers, enfin, dans plusieurs villes ici, il y a eu des assemblées qui ont permis, ces assemblées locales, de travailler sur des textes, de dire chacune, voilà quelle est notre réalité, voilà ce qu'on subit ici, voilà ce qu'on voudrait, voilà. Et ça a été concentré, justement, dans le manifeste, donc c'était effectivement le fin mai. Et on était d'ailleurs j'étais à cette réunion, il y avait à peu près 400 personnes venues de toute la France qui représentaient différentes assemblées. Et on a relu tout le texte, on a voté certains amendements, voilà. Et on a fini par ce texte qui est une synthèse en fait, hein, de, de, de ce que c'est, de ce que veulent, et ce que dénoncent, ce que veulent, de ce que veulent les États généraux. La première chose, donc je vais en parler deux minutes, hein, mais c'est en fait, vous pouvez tout le monde va aller le consulter sur le site hein, des États généraux des migrations. Hein, mais deux mots, c'est que d'abord, ce qu'on reproche le plus, c'est ce que je disais pour les mineurs tout à l'heure, c'est
la suspicion.
Voilà, la suspicion et alors qu'on demande un accueil digne, humain, hein, tout simplement, qu'on sache accueillir ces personnes qui viennent là, soit pour des guerres, soit pour des souffrances, hein, peu importe, hein, et qu'on sache les accueillir dignement, leur permettre de garder là une porte ouverte hein, sur tous leurs problèmes et leur permettre de pouvoir s'installer ici au mieux possible. Hein. C'est alors ça se décline dans plusieurs choses. D'abord, c'est le respect du droit d'asile. Là, l'exemple du jeune Ivoirien, on le voit très clairement que ce droit d'asile, il est bafoué. Parce que comment, alors que une personne parle une langue, on l'obligerait à aller dans un autre pays où il ne parle pas du tout la langue pour déposer son droit d'asile. Déjà, ça, c'est complètement anormal. Il devrait y avoir un accord européen qu'au moins, au niveau de toute l'Europe, chaque demandeur d'asile puisse choisir le pays dans lequel il doit demander l'asile. Hein. Puisqu'il y a un espace Schengen, au moins ce sera un minimum. Hein, déjà. Et ça, déjà, ce n'est pas la réalité. Et au contraire, ce qu'on appelle l'accord Dublin, c'est non seulement une aberration, mais en plus, comme il y a presque autant d'étrangers qui sont envoyés d'un pays étranger, par exemple, vers la France, que de la France vers d'autres pays, c'est complètement ridicule.
Le résultat est nul.
Le résultat est nul. Donc c'est complètement aberrant. Hein. Donc déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est tout ce qui est tout ce dont sont les discriminations. Alors, pour les mineurs, c'est très clair. Il y a les avocats qui ont dénoncé ça. Les mineurs qui ont fait des petits délits, bon, et les mineurs qu'on soit français ou étranger, on est ado, souvent, bon, bah, on fait des petits délits, des petits vols, des trucs comme ça. Et là, les avocats ont crié tiré la sirène d'alarme parce qu'il y a une discrimination effarante hein, entre le même délit qui va être fait par un jeune migrant ou un jeune français. Déjà entre les Français, ceux d'origine étrangère, enfin ceux dont les parents ou arrière-parents étaient d'origine étrangère, hein, en fonction de la couleur de peau, déjà une discrimination, mais en plus qu'on soit vraiment des étrangers, il y a encore une autre discrimination plus importante. Et donc ça aussi, c'est un axe hein, des États généraux, il faut en finir vraiment avec toutes ces discriminations. Enfin, il y a le deuxième point important, c'est qu'il faut arrêter de poursuivre les gens qui aident les migrants. On voit, ça devient totalement incroyable. On est harcelé, je veux dire, partout où des militants hein, ont essayé d'aider les migrants, les accueillir tout simplement. Hein. Maintenant, de plus en plus, on appelle ce qu'on appelle le délit de solidarité.
Hein. Il passe devant les tribunaux.
Et on passe devant les tribunaux. Et les tribunaux condamnent soit à des peines réelles, dans lesquelles il faut faire appel dans ce cas-là, soit à des peines même avec sursis. Peu importe, on n'a pas à être poursuivi quand on aide une personne humaine à simplement pouvoir trouver, avoir un toit, être hébergé. C'est absolument inadmissible. Enfin, ce qu'on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y ait au niveau d'une Europe, l'ensemble des migrants puissent choisir leur lieu d'accueil, hein, que ce soit un accord européen, et que ça, il y ait une bataille politique qui soit menée au niveau de l'Europe là-dessus. Enfin, surtout, c'est sur le niveau de l'accueil qu'il y ait une autre politique qui soit proposée. C'est qu'on ait une politique une politique alternative pour l'accueil des migrants. Ce n'est pas vrai qu'il y a une déferlante de migration en Europe ou ailleurs. Le pourcentage de migrants par rapport au pourcentage de population est infime, c'est 2 ou 3 %. Dans l'histoire de l'Europe, on a accueilli des pourcentages bien plus importants, sans que ça pose aucun problème. Hein. Il y a un problème social, il y a un problème, c'est vrai, mais l'immigration là-dedans n'a rien à voir. Deuxièmement, avec le réchauffement climatique, il faut être totalement conscient qu'il va y avoir des millions et des millions de personnes qui ne vont plus pouvoir rester à vivre là où ils sont. Et donc, ce n'est pas en fermant nos frontières qu'on va résoudre ce problème-là. C'est sûr qu'il faut se battre aussi contre le réchauffement climatique, mais même si on arrêtait maintenant la production de CO2, il y aurait de toute façon l'inertie de ce qui a déjà été créé, et on va avoir des millions de réfugiés climatiques. Et donc, il faut savoir se dire, on fait le choix humain qu'on va accueillir ces personnes, que c'est un devoir de toute l'humanité, qu'on n'a pas à vivre chacun sur soi. L'humanité, le monde est mondialisé maintenant. Les conséquences de nous, produisant riches, les conditions de pollution qu'ont créées tous les pays riches, atteignent maintenant les pays pauvres. On doit en assumer nos responsabilités et on doit savoir les accueillir, que ce soit des réfugiés économiques ou politiques.
Voilà, le problème donc doit être résolu pour l'avenir. Ces états généraux des migrations, c'était une première assemblée plénière. Il y en aura d'autres.
Alors, il y a eu d'abord, à ces états généraux, il y a eu plusieurs commissions qui ont commencé à travailler sur des thèmes différents. Moi, j'étais sur un thème qui était la recherche les migrations, c'est-à-dire comment savoir à la fois utiliser les travaux des chercheurs, qui souvent ne sont pas forcément compréhensibles par le grand public, et s'appuyer sur l'expérience des militants qui sont confrontés à des témoignages quotidiens, qui sont un peu dans la précipitation de notre combat. Comment allier les deux pour parler au public, pour savoir dire à la fois que ces humains qui viennent ici, ils ont tous un parcours qui justifie un bon accueil, et en même temps montrer que tout ce qui est facilement marée humaine des migrants, c'est complètement inexistant. Ça, les scientifiques peuvent le montrer. Ils peuvent démontrer que l'immigration est un phénomène qui a existé depuis des années, des siècles, et que ce n'est pas toujours le cas qu'ils ont été rejetés comme ça. Voilà, c'est à la fois allier le travail des chercheurs et des gens qui pratiquent sur le terrain pour parler à la population, savoir s'adresser à la population et démystifier toute cette propagande contre les migrants. Et il y a d'autres thèmes, moi j'étais sur celui-là, mais il y a plein d'autres thèmes.
Oui, le travail continue.
Voilà. Les groupes de travail vont continuer et s'approfondir dans différents thèmes. Et on va aussi réfléchir sur comment s'adresser aux politiques. Ça, c'est les prochains travaux à faire qu'on va aussi faire bientôt.
Alors, je voulais que vous nous disiez un mot de cette pétition contre l'enfermement d'enfants en CRA, qui a déjà récolté plus de 90 000 signatures.
Alors oui, ça, c'est absolument un autre scandale. C'est que tous les derniers gouvernements avaient dit, oh ben non, on ne va plus mettre d'enfants dans les centres de rétention. Les centres de rétention, c'est quoi? C'est un lieu comme une prison, un peu. C'est un peu comme une prison, puisqu'il n'y a pas du tout le droit de circulation. Ils ont le droit d'utiliser leur téléphone, mais il n'y a pas du tout le droit de circulation. Et souvent, comme celui de Sète, c'est assez sinistre. C'est des lieux qui ne sont pas du tout adaptés aux enfants. En plus, il y a une proximité entre les femmes, les hommes, tout ça. Bon. Et donc, tout ça, on avait demandé à ce qu'il n'y ait plus de jeunes, en tout cas d'enfants, qui soient enfermés dans les centres de rétention. Et malheureusement, on constate qu'encore, de nombreuses familles sont envoyées avec des enfants quelquefois en très bas âge, quelquefois des nourrissons, sont envoyés dans les centres de rétention. Et ça, c'est totalement inadmissible. Et je crois que c'est un débat qu'ont dénoncé tout le monde. Je veux dire, surtout Jacques Toubon, défenseur des droits, a fait plusieurs rapports là-dessus. La Cour nationale consultative des droits de l'homme aussi a dénoncé plusieurs fois cet enfermement. Mais apparemment, le gouvernement actuel semble totalement sourd à toutes nos demandes. Et ça, c'est inadmissible. Il pourrait très bien permettre à ces personnes d'être dans des hôtels ou dans un lieu assigné à résidence, tout simplement, et de façon à ce que les enfants n'aient pas à vivre ce traumatisme-là.
Alors, pour signer, vous pouvez vous rapporter à http://agir.lacimade.org/rétention. C'est le lien pour signer cette pétition et pour atteindre justement les 100 000 signatures.
Mais elles sont déjà atteintes maintenant, les signatures. Ah. Depuis tant, on les a juste dépassées, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais
alors, les prochains rendez-vous, eh bien, c'est déjà depuis aujourd'hui, le 11, le 12, le 13 juin, place de la Comédie, de 10h à 20h. C'est le bus d'Amnesty International qui s'appelle I Welcome. Des milliers de raisons d'accueillir justement les réfugiés en France, avec des expos, des vidéos, des animations. Et puis le 15 juin, c'est la Ligue des droits de l'homme, justement dans le cadre des États généraux des migrations, puisqu'elle en faisait partie, qui convie à 18h30 à la salle Peloutier, l'ex-maison des syndicats, place Zeus à Montpellier, à un débat sur immigration pour une solidarité radicale avec Christine Lazerge, qui est présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et Malik Salimbourg, président national de la Ligue des droits de l'homme.
Alors juste, j'ai une annonce aussi à moi à faire, c'est que le 14 et le 16 juin prochain, il y a des jeunes qui vont passer justement devant le tribunal de grande instance de Montpellier à 14h, donc poursuivis justement, soi-disant pour avoir des faux papiers et être de faux mineurs. Donc moi j'invite les gens à venir assister.
À quelle heure ?
À 14h, à venir assister à ce procès. Hein, vous verrez comme c'est totalement scandaleux de voir comment une justice ici peut envoyer des jeunes comme ça, même qu'ils aient 16 ou 19 ans, ça n'a pas d'importance, qu'on puisse les envoyer en prison. C'est totalement inadmissible et c'est glaçant.
Alors, je termine avec les dernières annonces. Eh bien, dès ce soir, à la salle Guillaume de Nogaret à l'espace Pitot, c'est une conférence qui débutera à 20h avec Dominique Lalanne. Dominique Lalanne, je le rappelle, est physicien nucléaire, ancien directeur de recherche au CNRS et président de Abolition des armes nucléaires, Maison de la Vigilance. Donc, il traitera de armes nucléaires interdites et après. Cette conférence, d'ailleurs, partira de l'étude du traité international interdisant les armes nucléaires qui a été mis en œuvre le 7 juillet 2017 et qui est en cours de ratification à l'ONU. Mais les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire font blocage, dont la France. Donc, on étudiera quelles sont les raisons qui poussent les États nucléaires à conserver ces armes et pourquoi les populations semblent indifférentes à cette menace de destruction. Comment faire pour obtenir leur abolition ? C'est organisé par le collectif Stop Armes Nucléaires 34. Et puis, demain mardi 12 juin, de 12 à 14 heures, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, c'est le café actualité du Centre Documentation Tiers-Monde, les terroirs du Sud, vers un nouveau modèle, une expérience marocaine, avec Geneviève Michon, qui est ethnobotaniste et directeur de recherche à l'IRD. L'entrée est libre. Et puis, jeudi 14 juin, 20h, au cinéma Diagonale, le film Under the Sky de Ramazi Makdizi, c'est un film palestinien qui raconte l'histoire vraie de deux hommes à Jérusalem. Le débat portera sur le statut de Jérusalem avec le réalisateur. C'est dans le cadre de la manifestation nationale Le Temps de la Palestine. Et lundi 18 juin, de 9h à 17h30, à l'Institut agronomique méditerranéen, route de Mende, une journée thématique sur ingénierie réseau, comment pérenniser la dynamique réseau au-delà des réseaux programmes. C'est organisé par le CARI. Il faut s'inscrire dès maintenant auprès de adeline@cariassociation.org ou au 04 67 55 61 18. La journée est gratuite. À bientôt, chers auditeurs.